Dimanche dernier, nous étions sur Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Et rappelez-vous, nous avions prêté quatre traits qui doivent caractériser nos relations dans l'Église pour garder l'unité dans l'Église. Et nous avons vu ces quatre traits que l'apôtre Paul souligne et enseigne de les mettre en pratique, à savoir l'humilité et la douceur. La patience, le support les uns les autres et l'unité de l'esprit. Aujourd'hui, nous restons encore sur Éphésiens chapitre 4, hein, mais nous allons considérer maintenant à partir du verset 7 à 16 hein, qui nous enseigne, je dirais, la vraie raison d'être de l'Église. Quelque chose qui est frappant et peut-être que vous pouvez fixer dans l'esprit, du verset 1 à 6, nous avons beaucoup vu l'accent porté sur l'unité. Et à partir du verset 7, vous allez voir, jusqu'à verset 16, il y a beaucoup l'accent porté sur la diversité. Ça, c'est frappant dans ce passage. Et nous allons lire, pas à partir du verset 7, mais nous allons considérer du 7 à 16. Mais juste aujourd'hui, ce matin, nous focaliser sur le verset 11 à 16. Et nous allons le lire ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le mot ici c'est diakonos. Et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce passage enseigne au verset 11 que Christ a donné à son Église des hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, afin de servir pour le perfectionnement des saints. Donc je dirais la raison d'être de l'Église, c'est le perfectionnement des saints. Et j'intitulerai ce message en passant comme le perfectionnement des saints. C'est ce que nous allons nous entretenir ce matin. Et juste à considérer quatre points en ce qui concerne le perfectionnement des saints à la lumière du passage que nous venons de lire. Donc nous traitons différents aspects de ce sujet, à savoir qu'est-ce qu'on entend par perfectionnement ou le verbe perfectionner. D'après le texte, qui sont les acteurs de la perfection? Les raisons motivant pourquoi la perfection a sa raison d'être. Et finir par les buts, pourquoi la perfection. Et sans tarder, nous allons considérer le premier point, qu'est-ce qu'on entend par perfection. Mais la perfection n'a aucun sens si on ne le lit pas avec ce qui est écrit. Il s'agit de perfectionner les saints. Donc d'abord, qui sont les saints? Rapidement, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous apprenons que Dieu parle des croyants comme des personnes qui ont été sanctifiées et qui sont appelées des saints. Je rappelle juste que sanctifier signifie mettre à part, et saint décrit l'état de ce qui est mis à part. 1 Corinthiens 1:2, quand Paul s'adresse à l'église qui est à Corinthe, il dit à ceux qui ont été sanctifiés, le temps du verbe, ont été sanctifiés, quelque chose ponctuellement qui est arrivé une fois pour toutes en Jésus-Christ, et appelé à être saint. Donc nous apprenons donc que les saints du Nouveau Testament sont ceux que Dieu a mis à part pour lui-même, en les séparant du péché et du monde. La question, ont été sanctifiés. Mais quand? Si au moment de notre salut, quand nous avons cru pour la première fois en Jésus pour être notre sauveur. Et c'est à ce moment précis que Dieu nous sépare du péché et du monde et nous a mis à part pour lui afin de jouir de nous. Perfectionner les saints, nous comprenons bien à qui s'adresse hein, le perfectionnement, le saint. Mais qu'est-ce qu'on entend par perfectionner? Toujours dans la Bible, quand on veut étudier un mot, il faut regarder toujours les contextes et les autres passages où ce mot est utilisé. D'abord, c'est très intéressant à l'époque que le mot grec qui traduit le verbe perfectionner, katartizo, dans le grec ordinaire, ce verbe était utilisé comme un terme médical pour remettre un os démis ou cassé. Mais il est employé en Marc 1.19. Vous pouvez le regarder. Et dans Marc 1.19, dans la version du second, il est traduit par réparer. Hein, donc, perfectionner, traduit par réparer. Et il est utilisé pour les apôtres qui sont en train de réparer leur filet. Donc, après une nuit de pêche, vous pouvez imaginer, donc, hein, les pêcheurs étaient occupés à remettre en état ce qui était abîmé de leur filet. Donc j'imagine va les nettoyer après, une fois qu'elle est réparée, et les plier pour la prochaine fois où ils vont partir à nouveau à la pêche. Donc retenez bien, remettre en état ce qui était abîmé de leur filet. Il est utilisé en Galates 6.1 aussi, et là il est traduit par le second par redresser. C'est un autre contexte, mais l'idée est toujours à peu près la même chose. L'idée de remettre sur le droit chemin, cette fois-ci, un frère qui est tombé. Vous voyez? Donc, j'ai conclu en voyant les utilisations de ce verbe hein, qu'il est toujours à caractère positif et constructif. Il y avait le filet qui était abîmé et réparé pour qu'il puisse être prêt à nouveau à être utilisé. Il y a le frère qui est déraillé, c'est-à-dire sorti, imaginez, excusez-moi de l'image, hein, du rail, hein, et il fallait le remettre hein, pour qu'il continue à marcher sur la bonne voie. Donc c'est positif. C'est pour ça que le verbe à caractère positif est toujours constructif. Hein, souligne l'action de faire de quelqu'un ou de quelque chose ce qu'il doit être, parce qu'il l'était déjà auparavant. Hein. Donc le verbe souligne l'acte de restaurer un objet pour lui redonner son état d'origine, mais sens un peu plus poussé, c'est rendre capable. Le filet n'était pas dans l'état où on peut pêcher des poissons, il fallait les réparer, donc rendre capable. Il y a l'idée aussi de rendre complet. Je vais être très pragmatique, et ce qui rapproche de ces définitions, ce matin, je veux que vous reteniez, quand on va parler de perfectionner, oh, il s'agit de deux verbes qui peuvent l'expliquer le mieux, c'est de préparer et équiper pour rendre prêt à être utilisé. Je parle du filet, je parle du frêter, déraillé entre guillemets, et qu'il faut remettre sur le chemin pour qu'il puisse à nouveau hein, marcher sur la voie du Seigneur. Donc retenez, perfectionner pour nous, c'est préparer et équiper pour rendre prêt à être utilisé. Donc maintenant c'est beaucoup plus clair pour nous le sens de ce verbe dans le contexte du Nouveau Testament. Et c'est ça qui nous amène à poser la question maintenant, mais qui sont les acteurs de la perfection? D'après le texte, regardez au verset 11. Qu'est-ce qui accomplit la perfection? Je dirais, avant de lire le verset 11, c'est le Saint-Esprit qui accomplit la perfection, n'est-ce pas? Et le moyen qui est utilisé, le Saint-Esprit a choisi des hommes et a les a dotés des dons pour pouvoir servir à préparer, à équiper les saints. Et nous lisons, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, il aurait pu dire les autres comme docteurs, non? Les autres comme pasteurs et docteurs. Et vous savez, rapidement, aujourd'hui, il n'existe plus des apôtres, dans le sens des 12, hein, qui étaient choisis par Jésus-Christ et qui étaient les contemporains de Jésus-Christ, hein, qui ont vu son ministère. Et donc, ça n'existe plus, les apôtres et les prophètes. Hein, ils ont eu leur temps et c'est révolu. Les évangélistes existent encore pour amener au salut les perdus. Et en quelque sorte, comme dit l'apôtre Paul, hein, nous sommes tous exhortés à faire l'œuvre d'évangéliste, même si nous n'avons pas le titre d'évangéliste. Hein. Et ça, ça existe toujours pour amener au salut des âmes perdues. Hein. Et les pasteurs docteurs, ils sont là pour conduire les saints à maturité en vue de leur perfection. Et j'aimerais me concentrer maintenant, ce matin, sur les pasteurs docteurs, qui est un des acteurs de la perfection, hein, que nous voyons dans ce texte. La construction grammaticale, comme je viens de vous dire, il n'est pas écrit les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc la construction grammaticale nous indique tout simplement que les deux termes se rapportent à une seule personne. Ces deux mots parlent donc d'une seule personne, hein, pasteur et docteur, et je dirais un seul rôle, hein, avec deux aspects. Le pasteur, c'est le berger, et docteur, enseignant. N'est-ce pas? Mais c'est la même personne. Donc, revenons au sens de perfectionner, préparer et équiper. Donc, nous savons les acteurs maintenant, et nous pouvons dire donc, les pasteurs docteurs préparent et équipent les saints. Et donc, c'est le rôle un peu que joue le pasteur, hein, que je suis, que vous avez élu, hein, dans cette église, de vous préparer, de vous équiper pour votre ministère dans l'église. Ça, c'est mon rôle en tant que pasteur. Mais quelles sont les raisons de la perfection? Préparer, vous équiper pour votre ministère dans l'église. Et vous allez me dire tout de suite, mais comment ça se fait là que tu nous prépares et que tu nous équipes? Le verset 12 donne la réponse. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc je vois deux raisons qui motivent le pasteur à préparer et équiper les saints. D'une part, l'œuvre du ministère est intéressante. Le mot ministère, c'est diacre, servir. Et l'édification du corps de Christ. Donc, quand Paul parle de l'œuvre du ministère, comme première raison, pourquoi préparer et équiper les saints? Donc, le rôle du pasteur, c'est que va vous permettre d'avoir des opportunités pratiques pour apprendre et servir. Cela veut dire, parfois, il faut prendre un risque. Faire quelque chose qui se trouve hors de notre zone de confort, n'est-ce pas? Même parfois, les choses qui nous semblent impossibles. Mon intention, c'est d'essayer de vous aider à trouver votre place dans cette église. Préparer et équiper pour l'œuvre du ministère. Cela veut dire que j'observe ce qui se passe dans l'église. Et il se peut que je vais vous demander de faire une certaine chose, ou du moins, vous allez essayer. Donc je vous encourage, n'ayez pas peur. Si je vous demande de faire quelque chose, vous n'allez pas vous engager pour toute la vie. Mais au moins essayer. Donc ça, c'est la raison pourquoi on doit préparer et équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Deuxième raison, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce qu'il faut retenir quand Paul parle du corps de Christ, il nous rappelle que ce que nous faisons, c'est pour la vie de toute l'Église. Bien que cela nous fasse du bien de pratiquer notre ministère, nous le faisons pour le bien de l'Église, pas pour nous. Je dirais donc que ces dons et l'application de ces dons servent à l'édification de l'Église. Et c'est ainsi que l'Église va grandir davantage quand chacun s'y implique, avec les dons que le Saint-Esprit vous a donnés. Et on peut voir des saints du plus jeune jusqu'au saint le plus âgé, les saints qui se sentent moins capable peut-être, jusqu'au saint qui se sent le plus doué. Mais la contribution de chacun quand il s'implique va faire en sorte que l'Église est édifiée et grandit. Mais qu'est-ce que Dieu vise par le perfectionnement des saints? C'est le but de la perfection. Il vise au moins trois choses que je vois dans ce texte. L'unité de la foi, au verset 13. La connaissance du Fils de Dieu et la maturité. verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'étalon de mesure, c'est Christ. Hein. Et nous devrons être rendus à l'état d'homme fait complet pour l'œuvre du ministère à la hauteur de l'étalon qui est Jésus-Christ, notre stature. À qui on doit être se mesurer. D'abord, l'unité de la foi. Donc, quand Paul parle de l'unité de la foi, il est très important de comprendre que dans la Bible, quand on parle de la foi, il faut considérer deux choses. La foi est décrite comme l'acte de confiance de total dans l'objet de la foi qui est la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est un premier aspect de la foi. L'objet dans lequel ma foi se repose. Mais il y a un autre aspect de la foi. La foi, c'est le contenu de ce que je crois. Et donc, ça c'est très important. Donc, il parle de l'unité de la foi. Donc, plus nous apprenons sur notre foi, plus nous serons unis. On dirait que c'est... on ne voit pas le lien direct, mais si. Plus nous apprenons sur notre foi, basée sur la personne de Jésus-Christ, plus nous serons unis. C'est pour ça qu'il demande l'unité de la foi. Donc c'est mon désir pour cette église, selon ce que l'apôtre Paul dit ici, que nous soyons unis dans notre foi. Et que cette unité puisse grandir. Cela implique que nous comprenions notre foi. Et comment puissions-nous comprendre notre foi? D'où l'intérêt à chaque prédication, nécessité de l'enseignement, nécessité de l'instruction dans l'Église. Quand je dis nous comprenions notre foi, je parle du contenu de ce que nous croyons. D'où la nécessité de l'enseignement, nécessité de l'instruction, hein, ici dans cette Église. Et je vois aussi l'unité implique que nous sommes tous à la même page. En ce qui concerne l'essentiel de notre foi. Ça, c'est l'idée de l'unité de la foi. Nous serons tous à la même page sur l'essentiel de ce que nous croyons. Je ne parle pas simplement des confessions de foi, des contenus de la foi chrétienne, hein, que nous sommes tous à peu près à la même page sur les doctrines majeures qui sont vitales pour la vie de l'Église. Oui, l'unité ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose. Horreur, quelle horreur. Je viens de vous dire, à partir du verset 7 à 16, on parle de la diversité. Tandis que 1 à 6, on voit l'unité qui l'accent porte dessus. Et donc, c'est hors de question, selon le contexte, que l'unité veuille dire qu'on pense tous la même chose. Tout simplement, l'unité dans la foi veut dire que nous tirons tous dans la même direction. Même si elle est différente d'opinion, nous pouvons en discuter, je dirais, au lieu de nous disputer. Donc, quand on dit l'unité de la foi, il y a cette idée aussi que nous tirons tous vers la même direction. Et oui, il y a un peu de différence ici et là, mais peu importe, ce qui nous unit, c'est ce contenu qui nous amène vers l'avant. Et ça, c'est très important pour l'Église. C'est pour ça que c'est cité en premier. Et d'où vous voyez très bien l'importance ici, depuis que cette église existe, l'importance, l'accent que nous portons sur l'enseignement, sur la prédication textuelle. Et c'est pour ça qu'on est ici, on forme les hommes, ici, pour qu'ils sachent prêcher textuellement ce que nous dit le texte, n'est-ce pas? Et c'est ça qui nourrit la foi, qui supporte notre foi et qui nous encourage. La connaissance du Fils de Dieu. Deuxième but aussi, la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, ce que nous venons de nous entretenir, et de la connaissance du Fils de Dieu. Je dirais, c'est mon désir que je devienne que cela devienne le plus important dans cette Église, notre relation avec Jésus. Connaissance du Fils de Dieu. J'aimerais. Et c'est mon désir, et je m'y donne à fond, pour que nous puissions connaître plus notre Seigneur Jésus, développer la relation personnelle de chacun avec Jésus. Et donc, notre objectif est d'aider l'Église pour qu'elle puisse mieux connaître le Seigneur. Et vous me dites, mais comment? Encore par la prédication, par l'enseignement et autre chose. C'est le moyen que Dieu nous a laissé la Bible. Et donc, cela se fera par la prédication, par l'enseignement. Hein. Et je dois veiller en tant que pasteur à ce que la vie de l'Église nous aide mieux à connaître Jésus. Je répète, je dois veiller à ce que la vie de l'Église nous aide mieux à connaître Jésus, la connaissance du Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça impose? Cela impose que nous mettions de côté les activités sont utiles ou inutiles pour nous concentrer sur notre relation avec Jésus en tant qu'individu et en tant qu'Église. De manière pratique, je le sais de ma propre vie, nous faisons parfois beaucoup de choses pour le Seigneur et nous n'avons pas de temps pour nous asseoir à ses pieds, pour l'adorer et pour apprendre de lui. Je le sais, dans ma propre vie, je ne sais pas le vôtre, mais souvent on aime être dans l'action. Souvent le monde nous donne une perspective de vous existez, vous êtes reconnu par ce que vous produisez. Et parfois cette mentalité nous envahit aussi subrepticement et on y va dans cela. Et on perd de vue l'essentiel de connaître le Fils de Dieu. Donc, je ne voudrais jamais dans cette église privilégier, si vous voulez, l'activité au détriment de tout ce qui contribue à la connaissance personnelle dans la relation de chacun et aussi de l'Église avec Jésus-Christ. Et oui, mais par quel moyen on développe cette relation? Il n'y a pas de miracle. Hein? Toujours, c'est par l'étude de la Bible, par la prière. C'est les deux moyens de moyens pour pouvoir développer cette relation avec notre Seigneur. Et vous savez, souvent, on est si chargé. Nous avons tous les mêmes bacs, hein? N'est-ce pas, dans la semaine, hein, on commence à 8h, on finit 18h, peut-être jusqu'à 20h, 21h, 22h. Ça n'arrête pas. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le temps pour l'intimité avec le Seigneur. Je ne jette pas la pierre, je suis avec vous dans ce même bac. Je sais. Mais sachez, chers frères et sœurs, ce qui compte avant tout, c'est pas ce que nous faisons. N'empêche que nous devons faire quelque chose selon la volonté de Dieu, mais ce qui compte avant tout, c'est notre relation avec Jésus, mieux le connaître, pour mieux le servir et mieux l'aimer. Donc ce qui veut dire qu'il y aura certaines activités, nous pouvons maintenir quand il contribue à la connaissance du Fils de Dieu, et parfois on dirait non à cette activité parce qu'il ne nous aide pas mieux à mieux connaître Jésus. Donc c'est ça mon responsabilité, de veiller à ce que tout ce que l'Église fait contribue à ce point important dans la vie de l'Église, comme c'est enseigné par l'apôtre Paul ici. Donc le désir de connaître Jésus et d'améliorer notre relation avec lui n'est pas une invitation à la paresse. C'est souvent dans le service des autres que nous trouvons notre propre bénédiction. Dans sa relation avec les autres, la relation avec le Seigneur, il ne faut jamais oublier le principe d'inclusion que je vous dis toujours. Ce que nous faisons pour Dieu passe à travers ce que nous faisons pour les autres. Ça, c'est un principe dans le gouvernement du royaume de Dieu. C'est le principe primordial. Ce que je fais pour Dieu passe à travers ce que je fais pour les autres. Vous ne pouvez pas prétendre dire aimer Dieu et n'aimer pas vos parents. Je parle aux jeunes. Même les adultes. Hors de question, vous n'avez pas compris. Si vous prétendez aimer Dieu, vous devriez commencer cela par aimer ceux qui vous sont proches, que vous pouvez toucher là, vos parents. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et ne pas obéir ou vous soumettre à l'autorité que Dieu met. David parlait de cela lors de la République, tout à l'heure. Notre obéissance à Dieu passe principe d'inclusion par l'obéissance à l'autorité que Dieu a placée et celui qui l'a permis. Vous voyez, c'est très important de regarder ces principes-là. Je finis par la maturité jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Donc nous avons vu l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait. c'est pas de la perfection morale dont il s'agit, l'état d'un fait complet, c'est ce que nous avons vu, perfectionné afin de nous rendre complets, prêts au service diaconos. Ce que j'aimerais attirer votre attention ici maintenant, faites attention au verset 13 et 14. Il y a quelque chose qui est profond à saisir ici. Au verset 13, est-ce que vous avez remarqué, Paul parle de la maturité, stature de Christ qui est l'étalon. Mais l'homme doit être complet avec cet étalon, la stature de Jésus-Christ. Donc, c'est de la maturité. Et au verset 14, il contraste avec l'immaturité. Est-ce que vous avez remarqué ça? Au verset 13, il parle de la maturité, tandis qu'au verset 14, il parle de l'immaturité, la stature d'un enfant. Nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc ici, Paul donne une image d'un chrétien qui manque de maturité en parlant au verset 14. Et vous voyez l'image, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Paul qui le dit. Hein. C'est comme un petit bateau dans une mer orageuse, n'est-ce pas? À la merci de tout vent et des vagues. Hein. Tels sont les chrétiens qui manquent de maturité. Je dirais, ils n'ont jamais de convictions fixes. Leurs opinions ont la tendance à être ceux du dernier prédicateur entendu sur Internet ou du dernier livre lu. Et ils sont une proie facile pour chaque vent de théologie qui arrive. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas lire des choses qui peuvent être édifiantes sur Internet. Mais de baser sa foi sur des choses que vous entendez, et le lendemain vous entendez un autre prédicateur, donc je crois maintenant cette fois-ci et non plus l'autre. Ça, c'est l'immaturité. Ils ne savent pas résister à la tromperie des hommes ou à leur ruse dans les moyens de séduction. Et je dirais, et au moment de ma réflexion, j'ai dit, mais est-ce que Paul s'adresse ici dans l'église, ici à Éphèse, à des débutants dans la foi, des nouveaux-nés? Mais après la réflexion, j'ai dit non. Non. Parce que vous savez, quand on est né de nouveau, chacun de vous tous ici avait passé par cette expérience. C'est au moment quand vous êtes né de nouveau et vous êtes le plus bouillonnant pour le Seigneur. J'ai vu ça dans ma propre vie. Donc il ne s'adresse pas à des personnes comme ça, parce que quand on est né de nouveau, on est plus motivé pour apprendre et avancer dans cette nouvelle foi dans laquelle notre vie a été complètement changée. J'attire juste une réflexion pour chacun d'entre nous ici, donc il y a un danger. Si cette lettre est là, il y a un danger aussi pour nous, dans lequel nous devrions faire attention, de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Ce n'est pas des débutants dans la foi. Cela quand nous sommes bien installés dans l'Église, quand nous connaissons tout le monde et nous savons quoi faire et ne pas faire dans l'Église, quand nous sommes bien habitués à ce que c'est d'être un chrétien, oh, plus sur nos gardes, plus plongé dans les Écritures. Ah, je suis confortable, je suis content. Ah, je suis avec mes frères. Ah, je suis content. Oh, Bible, prière. Yeah. Plus besoin. Et ça, c'est dangereux. À ce point-là, nous sommes arrivés à risquer notre vie spirituelle. Et veillons à chacun sur nous-mêmes de cela. Je ne sais pas depuis quelle année vous êtes ici, mais il faut être sur nos gardes. De ne pas dormir sur nos lauriers et de nous habituer. Bon, je vais tous les dimanches, mais c'est toujours comme ça. C'est une erreur. Oui, le Seigneur vous a doté des dons spirituels. Mettez votre don au service de l'Église. Pratiquez l'enseignement que vous avez reçu chaque dimanche. Si vous ne le faites pas, vous vous mettez en danger. Mais la Bible, ce que je vois dans ce passage, il ne nous encourage pas de rester dans la stature d'enfant, mais il nous encourage à aller dans la stature d'un homme fait. Et la question maintenant, comment aller de la stature d'un enfant à la maturité? Et c'est ici que je trouve formidable. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris toujours quand on lit les versets qui suivent. Hein. Est-ce que vous avez remarqué ça? Professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens, les jointures de son assistance et que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, s'édifie lui-même dans l'amour. Je comprends, il fait la métaphore du corps, d'accord, mais je n'ai pas bien saisi le rôle que jouaient les liens, les jointures qui étaient importantes pour tenir tout ensemble et pour que tout soit en mouvement. Ça, je n'ai pas vu cette perspective-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis très surpris, la connaissance de la médecine de l'Antiquité, ils avaient compris déjà le rôle des jointures qui maintient tout l'ensemble du corps, et c'est grâce à ces jointures que le mouvement est possible. Donc, dans l'analogie ici, les jointures sont importantes, hein, dans cette analogie. Pourquoi ? Parce que c'est le canal par lequel on assure la croissance du corps, mais aussi par les jointures qu'on maintient le corps ensemble et le met en mouvement. Vous voyez ? Son bras, les pieds, etc. Je dirais les liens ou les jointures sont les points de contact entre les croyants qui sont les membres du corps. Les nerfs, ils passent aussi et pourvoyant une liaison entre chaque membre à la tête, n'est-ce pas? Et donc, je comprends mieux maintenant que si le corps n'a pas de bonne jointure, il ne peut pas fonctionner correctement. S'il n'y a pas de bonne jointure, le corps ne peut pas fonctionner correctement. Donc c'est un travail de jointure qui produit le fonctionnement du corps de Christ. Et vous voyez où est-ce que le texte va y venir? Tout simplement, il est nécessaire donc dans le corps de Christ que les jointures soient en bonne santé. Pour que l'organisme qui est le corps, la métaphore que Paul utilise ici pour le corps de Christ, il soit en bonne santé. Et vous savez, c'est pour cela que Satan attaque les membres du corps de Christ dans leurs relations les uns avec les autres. Les jointures font une liaison entre tous les membres du corps pour qu'ils puissent être en mouvement ensemble. Je comprends mieux pourquoi la semaine dernière, il parle de douceur, il parle de l'humilité. Et oui, parce que les jointures qui maintiennent le corps ensemble, il fallait attaquer aux jointures tout simplement pour détruire les relations les uns avec les autres, les membres les uns avec les autres. Je n'avais pas compris ça. Maintenant, j'ai compris l'image et le sens dans lesquels le texte nous enseigne. Donc, Satan cherche à attaquer les membres du corps de Christ dans leurs relations les uns avec les autres, à l'image des jointures qui maintient les membres du corps ensemble pour les coordonner et pour les mettre en mouvement ensemble. Donc, s'il peut détruire les jointures, il peut freiner le corps de Christ dans son bon fonctionnement. Et ça, chers frères et sœurs, les dangers. Ça, c'est les dangers. Ici, on n'a pas des anges ici. Des saints, oui. Mais, pêche encore. On a besoin de l'humilité. On a besoin de la douceur. On a besoin de l'unité. Conserver l'unité. Pour marcher ensemble, pour œuvrer ensemble. Donc on comprend mieux maintenant l'utilité de mettre en pratique l'humilité, la douceur, la patience, le support les uns les autres, l'unité de l'esprit dans nos relations les uns avec les autres, comme les jointures qui maintiennent le corps ensemble et les mettent en mouvement, les mettent en vie. Oui, chers frères et sœurs, si donc nous agissons toujours dans l'Église avec l'amour les uns pour les autres, l'humilité, alors là, nous allons croître et nous allons mûrir. Vous voyez les termes ici aussi qui est utilisé dans le verset que nous venons de lire. Donc c'est aussi simple, mais aussi difficile, n'est-ce pas? Encore une fois, nous devons regarder et porter le regard sur Jésus parce que c'est par lui et avec son aide que nous allons y arriver. Oui, parce que le but ultime de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Jésus, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est l'étalon. L'état d'homme fait. Ici, bas sur la terre, on ne sera jamais là, mais en temps vert. Mais le jour où nous serons avec le Seigneur, soit par la mort, soit qu'il revienne dans sa seconde venue, dans sa présence, nous devrons
deviendra comme lui, il est, n'est-ce pas, semblable à lui, devenir comme Jésus. Mais ça demande dès maintenant de nous dépouiller de beaucoup de choses qui nous embêtent et qui nous bloquent et qui nous empêchent de devenir comme Jésus. Ça, c'est important de le faire dès maintenant. Oui, dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos pensées, nous cherchons à être de plus en plus comme Jésus, transformé par sa parole pour nous conformer à son image. Comme je viens de mentionner, chers frères et sœurs, l'état d'enfance expose les chrétiens au constant danger de nous reposer sur nos lauriers et perdre de vue la raison pourquoi nous sommes dans l'église locale. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous est de passer de la stature d'un enfant à la maturité, l'état d'homme fait. Complet. Nous avons tout dans la parole de Dieu pour cela. Oui, Dieu a un but élevé pour chacun des croyants, devenir semblable à Christ. Je vous pose juste quelques questions que je me suis posées moi-même. Ça fait des années que je suis dans cette église. Je me posais la question là. Est-ce que cela fait partie de ta priorité de devenir semblable à Christ? Oui, je prêche tous les dimanches. Je suis là. Mais est-ce que c'est une priorité pour moi de devenir semblable à Christ? Est-ce que cela fasse partie de mes priorités au quotidien? Eh oui, nous avons tous les exigences des « il faut, il faut, il faut, il faut ». Mais dans ces « il faut », est-ce que c'est une priorité pour moi de devenir semblable à Christ? Est-ce que vous mettez en pratique vos dons spirituels pour servir à l'édification de l'Église? Oh, j'ai aucun don. Non, la Bible dit que Dieu a donné un don à chacun. Ma responsabilité en tant que pasteur, votre pasteur, c'est de vous encourager à dire, est-ce que tu peux faire ça? Mettre à l'exercice de votre don pour le service des autres, pour édifier l'Église. Est-ce que je suis prête à répondre au Seigneur par là quand il va demander, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux venir avec moi, on va rendre visite à la personne? Oh non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai ça. C'est important de mettre votre don au service et de l'édification de l'Église. Quelle est votre contribution pour l'édification du corps de Christ? Quelle stratégie mettez-vous en place pour mieux connaître Jésus? Est-ce que vous lisez méthodiquement votre Bible? Est-ce que vous méditez, analysez, cherchez en profondeur les précieux trésors dans la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes appliqué jour le jour? Ou quand on a envie, oui, j'ai envie aujourd'hui, parce que ça ne va pas trop bien. Peut-être Dieu va me bénir un peu parce que j'ai ouvert. Ah mince, je tombe ici là. Ah, oui. Est-ce que c'est comme ça que nous considérons la parole de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez connaître Jésus? Surtout pas. Surtout pas. Si vous voulez connaître quelqu'un, vous devrez être le plus souvent être avec cette personne. Je parle par exemple, le mari et la femme, ils peuvent habiter côte à côte. Hein? Être dans la même maison, côte à côte. Il n'y a plus d'intérêt l'un pour l'autre. On se connaît depuis longtemps. Est-ce que nous sommes comme cela avec le Seigneur? Je te connais. Je n'ai pas besoin de te connaître plus. C'est sérieux, chers frères et sœurs. C'est sérieux. Il parle de l'unité de la foi. Il parle de la connaissance du Fils de Dieu. Il parle de la maturité. Ce à quel, pas seulement le pasteur qui est engagé, impliqué, mais chacun de nous tous est impliqué dans cela. Ne me répondez pas à moi. Répondez au Seigneur. Ce qu'il attend de vous. L'Église est là pour le perfectionnement, pour vous équiper, pour vous préparer, pour mettre au service de l'Église les dons qui vous ont. Répondez au Seigneur, oui, je veux faire ta volonté. J'ai compris depuis longtemps, j'étais à la marge comme un spectateur. Je regarde les choses passer, mais mon cœur n'est pas impliqué. Examinez-vous de moi, et cherchez pourquoi. Et maintenant, dis Seigneur, je te confesse mes péchés. Je veux te servir. parce que le service pour Dieu passe au principe d'inclusion par le service dans l'église locale où il m'a placé. Toujours le principe de gouvernement du royaume de Dieu, le principe d'inclusion.